Rendez-vous du Mondial du Bâtiment, le grand dossier du Mondial du Bâtiment, une émission animée par Nathalie Croiset.
Tous les mois, donc, dans ces rendez-vous du Mondial du Bâtiment, nous organisons un grand débat autour des thématiques majeures pour l'avenir. Il va être question de la REP, responsabilité élargie du producteur, pour préciser. Le 1er janvier 2022, une nouvelle filière de REP pour les déchets du bâtiment doit voir le jour. Une filière précisément REP pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle doit permettre de mieux trier, collecter, recycler et valoriser les 43,5 millions de tonnes annuelles de déchets du bâtiment et de lutter aussi, c'est l'un des grands enjeux, contre les dépôts sauvages. Une mission de préfiguration menée par l'ADEME est arrivée à son terme. L'étude a été publiée il y a quelques semaines. Des réunions de concertation sont actuellement en cours, donc on est en plein dans l'actualité en traitant ce sujet de la REP. Alors, quelles sont les conséquences pour les acteurs du bâtiment, les avantages, mais éventuellement les freins, où en sont les discussions? On va en parler notamment avec Stéphanie Jacob, bonjour.
Bonjour.
Qui est présidente du groupe de travail économie circulaire de l'AIMCC, Association française des industries des produits de construction. Vous allez vous présenter en quelques mots dans un instant. Deux autres intervenants qui sont en visio avec nous. Sylviane Oberlé, vous êtes avec nous, bonjour. Alors, on ne retrouve pas Sylviane Oberlé, va-t-on la voir? Elle est là, Sylviane?
J'ai pas disparu.
C'est parfait, bonjour. Je ne vous voyais pas, c'est pour ça que je me posais la question. Vous êtes donc chargée de mission prévention des pollutions auprès de l'Association des maires de France. Et puis nous sommes aussi avec Hervé Demestre. Là aussi, est-il avec nous, Hervé Demestre?
Oui, bonjour Nathalie.
Bonjour.
Bonjour Nathalie, merci de m'accueillir. Je suis très content d'être avec vous.
Je vous en prie, président du comité stratégique de filière IPC, Industrie pour la construction. C'est bien, je commence à vous voir en image, c'est parfait. Alors quand même un petit mot chacun pour présenter vos noms, vos fonctions, peut-être un petit tour de table d'abord pour se présenter, Stéphanie Jacob.
Oui, donc Stéphanie Jacob, donc je travaille dans un syndicat professionnel du bâtiment et j'anime depuis un petit peu plus d'un an et demi maintenant le groupe de travail autour de l'économie circulaire de l'AIMCC.
Voilà, vous allez nous en dire
avec
plus.
Avec un sujet majeur.
Exactement.
Coup, sur la REP.
Vous allez nous en dire plus dans un instant. Sylviane Oberlé, allez, quelques mots aussi pour vous présenter.
Alors, je travaille à l'Association des maires de France. Je ne suis donc pas élue, je suis salariée de l'association. Je m'occupe des dossiers, j'ai l'habitude de dire, d'environnement sale, c'est-à-dire les déchets avant qu'on parle d'économie circulaire, les mines et carrières, les sites pollués, enfin bref, tout ce qui est marrant.
Mais ça va être très sympathique, on va voir ça avec vous. Hervé Demestre, là encore quelques mots pour vous présenter.
Oui, bonjour. Donc, écoutez, j'étais jusqu'à la semaine dernière le directeur général chez Saint-Gobain de Placoplâtre et d'Isover, et puis j'étais jusqu'à il y a 15 jours le président de l'AIMCC. Et j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure, c'est-à-dire de lancer un nouvel éco-organisme pour répondre à cette REP des matériaux du bâtiment.
Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous. C'est pour ça que vous êtes avec nous et que vous allez en parler. Alors, c'est ce que je disais, là, on est en plein dans l'actualité puisqu'il y a des réunions de concertation qui ont lieu actuellement sur le périmètre. Je crois que vous devez rendre vos positions finales dans une semaine, le 14 mai. Donc,
on a eu un petit rab.
Vous avez eu un petit rab. Ah, ils ont été gentils. Ils ont préservé le pont de l'ascension, on va dire. Voilà. Donc, en tout cas, on est vraiment dans l'actualité avec des enjeux. Alors, c'est inscrit notamment dans la mission de préfiguration de l'ADEME, qui n'est pas une mission. C'est pas pour autant que l'État va suivre totalement ce que dit l'ADEME, évidemment, ce sont des préconisations. On parle notamment, et ça va être un peu les différents thèmes qu'on va aborder, développer le maillage des points de reprise afin d'offrir des solutions de proximité aux détenteurs, déterminer les modalités de la reprise sans frais des déchets, faisant l'objet d'une collecte renforcée. Il y a les enjeux de traçabilité aussi, évidemment le recyclage, la valorisation, amplifier aussi le réemploi et aussi l'autre aspect, c'est développer l'éco-conception. Alors, pour revenir un peu au contexte, tout est parti de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, la loi AGEC, qui a été publiée en février de l'année dernière, avec un volet qui était dédié à la gestion des déchets de construction, de réhabilitation et de démolition. Elle prévoit la création donc d'une REP. Bon, au départ, ça n'a pas été simple. Il faut bien le dire, quand ça a été annoncé, je crois qu'entre le gouvernement, l'État et les acteurs du bâtiment, ça n'a pas été simple. Bon, maintenant, ça y est, vous y êtes, vous êtes engagé, Stéphanie Jacob.
Ah oui, maintenant, Jacob. On y est. Là, on a tous les mains dans le cambouis. Et oui, l'objectif, c'est de faire de cette REP une réussite le plus possible sur les objectifs à atteindre. Sur, voilà, on a parlé de tous les grands enjeux, là, vous les avez cités, développer le maillage, développer le recyclage. Enfin, on est parti pour essayer de faire quelque chose le mieux possible.
Le mieux possible. Alors évidemment, Hervé Demestre, vous qui vous engagez pour un éco-organisme, vous n'allez pas dire le contraire sur le fait que vous êtes plein de bonne volonté.
Oui, bah écoutez, c'est ça, la loi elle est ce qu'elle est, on est conscient qu'il y a beaucoup de travail à faire avec les différentes parties prenantes pour affiner ce qui est écrit aujourd'hui, c'est l'objet des échanges qui sont là. Je crois qu'on est tous très humbles en face de la mission qu'on a devant nous, parce que je crois que nous sommes tous conscients que la tâche va être extrêmement difficile, qu'il y a beaucoup de choses très bien qui se font d'ores et déjà sur le terrain et qu'il va falloir amplifier le mouvement, qu'on peut... On peut trouver des mauvaises réponses à des bonnes questions et donc il va falloir apprendre en avançant et surtout en étant très concret sur le terrain avec les différentes parties prenantes.
Alors, on va rentrer évidemment dans le détail, mais quand même un commentaire aussi de Sylviane Oberlé, hein, quand même évidemment les communes qui ont aussi leur responsabilité, on va dire, aussi dans ces sujets.
Ah ben, nous sommes tout à fait satisfaits qu'on prenne à bras-le-corps le sujet. L'AMF n'avait aucune position particulière sur le fait que ce soit une REP ou autre chose. Mm-hmm. La demande de l'AMF est que ce soit un dispositif pragmatique et qui fonctionne, quelle que soit sa nature juridique.
Quelle que soit sa nature. Alors, on va voir justement comment ça va fonctionner et comment ça peut fonctionner avec les différentes thématiques. On va reprendre évidemment les unes après les autres. Il y a quand même, et c'est la base en fait finalement de cette question de la REP, l'organisation du tri à la source, hein, parce que l'une des grosses problématiques quand même, ce sont les dépôts sauvages. Et finalement, ce tri à la source, il est fondamental, hein, Hervé Demestre.
Ah ben oui, c'est la base. C'est-à-dire que nous, industriels qui recyclons des matériaux dans nos process, on le sait très bien, qui veut recycler bien doit trier à la source. En fait, si les matériaux ne sont pas triés à la source, eh ben, ils se retrouvent mélangés. Et même avec les meilleurs efforts et les meilleures technologies qu'on connaît aujourd'hui de tri, on retrouve à la fin, on ne retrouve pas la qualité des matériaux dont on a besoin pour en tirer le meilleur dans les process en amont. Donc les deux sont très liés et c'est là où il va falloir qu'on travaille tous ensemble pour arriver aux meilleures solutions. Pour atteindre les meilleurs objectifs de recyclage, eh ben, il va falloir avoir les meilleures solutions de tri et donc des solutions pragmatiques, comme l'a dit Sylviane.
Alors justement, ça veut dire aussi, Stéphanie Jacob, on peut se poser la question, si on fait du tri à la source, on va voir des tas de bennes à proximité des chantiers. Enfin, ça peut aussi, questions et ça peut faire peur.
Oui, ça peut faire peur. Ce que je voulais dire aussi, ce qui est important de remettre un peu dans le contexte aussi, c'est la dimension de cette REP. Cette REP, c'est plus de 45 millions de tonnes, dont 33 millions de tonnes de
déchets inertes. Vous voyez, je suis restée à 43 millions et demi. J'aurais dû remonter un peu mes chiffres.
On n'est pas un million près. c'est la REP ce qui est la plus importante de toutes les REP qui a été créée jusque-là. Pour juste remettre en perspective, Citeo, on est à peu près à 6 millions de tonnes. Donc on est sur les emballages. Donc on est vraiment sur une REP qui a une dimension inédite et qu'on doit mettre en place aussi dans un temps qui est extrêmement contraint. Donc en fait, ce qui est important pour nous, c'est de se baser sur l'existant. On a plein d'initiatives qui ont été mises en place dans le secteur du bâtiment. Il faut qu'on s'appuie sur ces initiatives et qu'on les développe de façon à pouvoir augmenter les performances environnementales de la gestion des déchets du bâtiment. L'une des initiatives, c'est de se dire, bah oui, on n'a pas forcément besoin d'avoir 10, 20, 15, 30 contenants sur les sites pour pouvoir gérer les déchets du bâtiment. On a des chantiers qui sont gérés de façon séquentielle, donc on peut avoir une rotation des contenants qui ne sont pas forcément d'ébène en fonction de l'état des travaux. Les artisans ou les entrepreneurs peuvent aussi ramener sur les points de reprise et trier une fois qu'ils sont sur le point de reprise, c'est aussi complètement possible.
Alors, donc, il doit être où ce point de reprise gratuite ? Parce que ça, c'est l'un des éléments clés aussi de cette future REP.
Oui, donc le maillage, il peut être assez protéiforme. En fait, on peut avoir plein de choses possibles. Ça peut être des déchetteries publiques. Je me retourne un peu vers Sylviane.
Ah bah, elle va réagir, elle va commenter.
Voilà, pour celles qui le souhaitent. Ça peut être des déchetteries privées, ça peut être des points d'apport chez des distributeurs. Et puis, on a évoqué récemment aussi les entreprises qui ramènent les déchets sur leur site et qui pourraient aussi, quelque part, être faire partie intégrante de ce maillage, sans dire qu'il faut qu'ils ramènent des déchets d'autres entreprises chez eux, c'est pas, mmh. c'est pas ça, mais oui. qu'ils ramènent leurs propres déchets sur leur site.
Alors justement, on va faire réagir Sylviane Oberlé à cette problématique, parce que l'un des grands enjeux aussi, c'est la question du maillage. Hein.
Tout à fait. Alors, l'une des caractéristiques de cette REP, c'est pas la seule, mais c'est la seule à le faire à cette échelle, c'est qu'elle inclut dans un même périmètre des acteurs extrêmement divers, mmh. que sont les ménages, les artisans et les grandes entreprises. Or, les uns et les autres, en matière de déchets, n'ont pas les mêmes besoins et n'ont pas les mêmes contraintes. Sur ce qui concerne le deuxième point concernant les déchetteries publiques, c'est que nous collectons de l'ordre de 13 millions de tonnes. Les déchetteries sont saturées et on n'arrivera pas à accueillir que ce soit 43 ou 45 millions de tonnes qui nous sont annoncées. De plus, les déchetteries sont organisées pour des petits apports, pas pour un grand chantier avec des bennes de matériaux. Fort de ce constat, nous, ce qu'on a défendu, c'est d'adapter le réseau le maillage à la nature de la personne qui apporte. Les collectivités s'occupent des ménages et elles continueront à s'en occuper. Mais les chantiers de grande taille et les entreprises importantes ont leur propre circuit, leurs propres besoins. Les collectivités n'ont pas à rentrer en ligne de compte dans ce genre de situation, sauf quand elles sont elles-mêmes maîtres d'ouvrage, ce qui fait qu'elles-mêmes ont des besoins. Et enfin, il y a le problème des artisans. Les artisans ont besoin spécifiques, notamment en matière d'amplitude d'ouverture et de nombre réduit de flux auxquels les déchetteries publiques ne peuvent pas répondre. Donc, l'idée que nous défendons, c'est qu'on envisage au moins d'abord, en termes d'organisation, trois types de maillage pour chacun de ces acteurs, qu'après, localement, on se rende compte qu'il n'y a pas assez de besoins pour les artisans et qu'il serait plus intelligent de basculer leur réseau, si je puis dire, enfin, et de les accueillir dans les déchetteries publiques. Il n'y a pas de problème à ce sujet-là, mais je pense qu'il faut envisager, en termes d'organisation, les trois réseaux et voir après comment on peut les faire converger.
Alors, c'est quoi, pour bien expliquer, les trois types de maillage, vous les voyez comment, Sylviane Oberlé?
Alors, tout ce qui concerne les particuliers, les ménages, mmh. Les collectivités s'en chargent, elles continueront à s'en charger. Mmh. Ensuite, on a les grands chantiers, ça c'est eux-mêmes, si je puis dire, qui vont dans la plupart des cas le gérer. Et enfin, l'intervention des artisans, qui est le public le plus délicat parce qu'il a des demandes de professionnels particulières qui sont différentes de celles des ménages, et notamment en termes d'heures d'ouverture. Et il n'a pas les quantités suffisantes pour qu'on puisse avoir immédiatement un effet de massification qui permet de diminuer le coût de la logistique. Mmh. C'est pour ça qu'on estime qu'il faut envisager leur cas de façon séparée. Dans un certain nombre de cas, ce sera un réseau de distributeurs qui sera le plus efficace. Dans d'autres cas, il s'agira d'avoir des infrastructures spécifiques. Et dans le dernier cas, si il n'y a pas de possibilité de créer des points d'apport spécifiques dans des bonnes conditions techniques et économiques, on pourra avoir une collaboration avec les déchetteries publiques.
Alors, je vais faire réagir Hervé Demestre à ce point-là, sachant que voilà, l'idée aussi d'un maillage suffisamment dense, c'est justement pour éviter les fameux dépôts sauvages dont je parlais en introduction. Et l'ADEME, dans sa mission de préfiguration, je disais qu'il ne donnera pas nécessairement... l'État ne suivra pas totalement peut-être toutes les propositions de l'ADEME. On propose quoi 15 kilomètres, c'est ça, Stéphanie et Jacob? Et puis je fais réagir à...
Oui, c'est ça,
15 kilomètres en moyenne et ouais. 10 peut-être pour les plus grandes ouais. agglomérations, parce que là, il y a plus de déchets. Hervé Demestre, sur cette question du maillage.
Moi je voudrais revenir sur un point qu'a évoqué Sylviane Oberlé, qui me paraît très important et très pertinent. En fait, il y a une question qui est le maillage, et puis il y a une question qui est le service qu'on apporte, mm-hmm. l'amplitude d'ouverture. Et c'est évidemment très important, notamment pour les artisans. Et on le voit bien, d'ailleurs, aujourd'hui, les maires de France, ils savent bien que la problématique des dépôts sauvages, c'est aussi une problématique du dépôt du dimanche soir ou du dépôt d'après les horaires d'ouverture, quasiment au pied des points de, d'apport actuel. Donc aujourd'hui, je crois que l'ADEME effectivement a fait des recommandations. On parle de 10 km, de 15 km. En fait, on ne sait pas trop. Mm-hmm. Et donc, moi, je suis partisan qu'on creuse la question, qu'on entame un certain nombre d'études et qu'effectivement, on avance sur ce maillage. Je trouve... Je partage l'objectif de Madame Oberlé de soulager finalement les collectivités sur une partie de ce qu'elles supportent aujourd'hui, qui est les apports des artisans. Alors évidemment, il serait illusoire de vouloir tout faire du jour au lendemain, mais je pense que l'objectif, il est là. Je trouve intéressante l'idée de bien dissocier le maillage et le service en fonction des apporteurs de déchets. Ça, c'est le bon sens. Et là aussi... je pense qu'on va trouver des solutions pragmatiques sur le terrain et par rapport aux débats qui sont en cours avec la DGPR, etc., je suis intimement convaincu que il faut qu'on rentre un peu dans le détail de façon concrète et qu'on va trouver des réponses assez simples à des choses qui apparaissent difficiles à concilier quand on veut trop les simplifier. Voilà.
Mmh. Sylviane Oberlé, vous voulez peut-être commenter aussi cette notion de service ? Puis il y a un autre point aussi qu'on pourrait aborder avec vous, j'en ai parlé en introduction et qui est majeur pour vous, c'est la question de la traçabilité.
Ah, tout à fait. Alors effectivement, pour les collectivités, les déchetteries sont connues comme étant un point d'apport, donc une espèce d'implantation géographique, mais pour les collectivités, c'est aussi un service. C'est un service rendu essentiellement aux ménages, de pouvoir non seulement apporter leurs déchets, mais de pouvoir les trier sur place pour pouvoir mettre derrière une valorisation en fonction de la nature des déchets. C'est également des horaires d'ouverture, c'est également des conditions d'accueil des usagers. Donc, le point d'apport déchetterie tel qu'il est conçu par les collectivités, ce n'est pas qu'un endroit où on pose les choses, c'est un service. Et je partage tout à fait ce qui a été dit sur le fait qu'il faut étudier à la fois le maillage en termes géographiques, mais aussi le service, qui n'est pas forcément le même suivant le type d'usager. J'apporterai une nuance à ce que vous avez dit tout à l'heure en disant qu'il faut trier pour éviter les dépôts sauvages. Oui, mais pas, la corrélation n'est pas aussi nette que ça. En fait, le tri permet de donner de la valeur à quelque chose qui n'en a pas, parce que du coup, ça deviendra une ressource pour un processus de recyclage. Quand il y a de la valeur, on est moins porté à en faire n'importe quoi. Donc, effectivement, trier va permettre d'éviter les dépôts sauvages, parce que si trier permet d'avoir de la valeur, ça reviendra tout de même moins cher que d'aller mettre ses déchets en mélange n'importe où, et de tout de même, même si ça n'est manifestement pas suffisamment dissuasif, risquer un certain nombre de sanctions. La position de l'AMF sur la REP a été toujours, ou sur le dispositif en place, a toujours été de dire que ce qui nous intéressait de façon prioritaire, c'est la traçabilité. Ça a deux intérêts pour l'ensemble des acteurs. La première, c'est que ça va illustrer le fait que la valorisation existe déjà. On est dans l'incapacité de la quantifier. Et en France, quand ce n'est pas quantifié, on a du mal à croire que ça existe. Donc, on a impérieusement besoin de savoir tracer ce qui est effectivement valorisé pour pouvoir quantifier et pour pouvoir justifier des responsabilités des uns et des autres, notamment les maîtres d'ouvrage publics, ont une obligation légale d'atteindre un taux de valorisation sur leurs déchets de chantier. Donc la traçabilité a un côté positif pour tout le monde parce qu'elle permettra de mesurer combien les efforts sont effectifs. Elle a un autre effet qui est lorsqu'on trace des déchets, il est beaucoup plus difficile de leur conserver leur caractère de passager clandestin. Et les passagers clandestins, c'est ceux qu'on trouve au fond des bois ou dans les ravins, qui constituent les dépôts sauvages. Donc la traçabilité est aussi un outil qui permettra de s'assurer que les déchets vont bien là où ils sont censés aller et éventuellement de remonter la chaîne pour voir à partir de quel moment il y a une absence de données qui permet de suspecter une solution guère légale pour le devenir de ces déchets.
Stéphanie Jacob, vous voulez réagir à tout ce qui a été dit depuis quelques instants?
Oui, mais sur la traçabilité, je pense qu'on est, complètement en phase. Hein. C'est un point hyper important et qu'on supporte côté IMCC. On participe à un projet multi-acteurs sur la traçabilité. On pense que aussi, ça va permettre aussi de quantifier un petit peu mieux ce gisement. On a vu au moment de l'étude de préfiguration de l'ADEME qu'on avait beaucoup de difficultés à quantifier précisément le gisement de déchets du bâtiment.
Et parce qu'il y a aussi peut-être la difficulté de la confusion entre déchets du TP et déchets du bâtiment aussi. Il y a cette problématique-là
qui est extrêmement forte, notamment, mais pas que pour tout ce qui est déchets inertes, de savoir, parce que la limite de la REP, elle est sur le bâtiment, donc il ne faut pas faire contribuer des produits qui, derrière, ne seraient pas pris en charge par la REP et vice-versa. Donc ça, c'est un point important. Et puis, ça va nous permettre aussi de mieux connaître notre gisement de déchets, de façon aussi à améliorer les choses au fur et à mesure, de développer les filières de recyclage, d'en créer des nouvelles, etc. Donc la traçabilité, c'est un point primordial de la REP.
Alors, on a bien compris les grands enjeux. Maintenant, on va voir un peu aussi concrètement comment ça peut se mettre en place, notamment à travers cet éco-organisme sur lequel vous travaillez, Hervé Demestre. Alors, maintenant, c'est quoi? C'est une vingtaine d'acteurs de metteurs sur le marché, c'est ça, qui se sont lancés, on va dire, dans cette aventure?
Oui, c'est ça. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous donner leur nom parce que c'est un peu prématuré. Puisque
Et on ne fera pas de publicité,
Voilà. Mais vous le verrez bientôt. Enfin, alors qu'il est, la société n'est pas créée, elle n'a pas de nom. Effectivement, on a un peu plus d'ailleurs d'une vingtaine d'acteurs aujourd'hui qui sont principalement des metteurs sur le marché, principalement des industriels, mais aussi des distributeurs, puisque vous savez que les distributeurs sont aussi considérés comme metteurs sur le marché pour la partie de l'importation des MDD. Donc on est aux alentours de 25 acteurs aujourd'hui, ce qui est largement suffisant pour lancer la société, pour avoir une base d'actionnariat suffisante. Voilà, et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que on a commencé en les réunissant par leur demander un peu ce qu'ils souhaiteraient faire de cet éco-organisme, en fait, dans quel état d'esprit ils souhaitent s'engager dans l'aventure. Et en fait, moi, j'ai été très frappé par l'aspect proactif et positif des contributions qui ont été apportées. C'est-à-dire que j'ai entendu le mot opportunité plusieurs fois. J'ai entendu des acteurs qui nous disaient, mais nous avons envie de faire de ce sujet de l'économie circulaire un sujet de progrès au service de nos entreprises, nos salariés nous le demandent, nos actionnaires nous le demandent, on a envie de le faire, etc. etc. J'étais très frappé et je me suis dit d'ailleurs que peut-être on aurait fait la même chose il y a 3 ans, on n'aurait pas eu tout à fait la même tonalité. Il me semble que les mentalités évoluent très très vite. Et donc on a pas mal de conditions qui sont réunies pour... en tout cas s'engager dans une démarche qui soit ambitieuse, c'est-à-dire on veut faire de ce projet un projet qui soit efficace écologiquement, efficace économiquement, les deux vont de pair, qui permettent d'améliorer effectivement la réutilisation, le recyclage, les boucles fermées, en un mot l'économie circulaire. On veut en faire vous savez, c'est un projet qui est piloté par des industriels. Les industriels, ils n'ont pas toutes les qualités, mais il y a une chose qu'ils savent très bien dans le bâtiment, c'est qu'ils ne réussissent rien s'ils ne sont pas à l'écoute et au service de leurs clients, et en particulier des clients des utilisateurs. Et donc, on veut en faire un projet qui soit inspiré par les besoins et les attentes des utilisateurs de l'éco-organisme qui vont être les détenteurs du déchet, les entreprises qui déconstruisent, qui démolissent ou qui construisent et donc qui ont des déchets à déposer, les collectivités locales qui ont aujourd'hui énormément d'enjeux par rapport à tout ça. Les distributeurs qui font partie du sujet. Aujourd'hui, les distributeurs, l'enjeu de point d'apport sur leur point de vente, c'est un enjeu qui est un vrai dilemme de service et de rentabilité. Et donc, il va falloir qu'on les accompagne pour que cela soit incitatif et positif pour eux.
Voilà, alors justement, donc un projet...
Allez-y.
Et oui, il y a une question justement qui arrive du public. Je voulais aussi vous la poser parce que il y a la façon dont s'intègre. C'est la question comment s'intègrent les professionnels du déchet, les collecteurs dans le circuit. De nombreuses entreprises du bâtiment massifient déjà les déchets chez elles et contractent avec ces professionnels. On parle dans notamment la mission de préfiguration de l'ADEME de modèle, un modèle financier entre opérations logistiques et traitement par les acteurs existants qui conventionnent avec les éco-organismes, ou alors un modèle opérationnel avec une organisation par les éco-organismes des marchés de logistique et traitement par voie d'appel d'offres pour les flux concernés. Enfin, il y a beaucoup de choses derrière tout ça. La place des collecteurs.
Alors,
comment ils s'inquiètent?
Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question.
Oui, voilà, c'est ça. Je suis revenu à plusieurs questions. Alors, il y a d'abord la question des collecteurs.
La place des collecteurs. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que il me semble que le bon sens dans tout ça, c'est de surtout préserver ce qui fonctionne et de se garder de modifier. Si on prend en modifiant, on prend le risque de dégrader. Voilà. Mmh. L'objectif de la REP et l'objectif de l'éco-organisme qu'on porte, ça va être de faire progresser l'ensemble. Et donc, quand il y a des acteurs sur place qui font déjà du bon travail, l'objectif, c'est de les aider à continuer à faire le bon travail, voire même à l'améliorer. Et donc, alors une fois que je vous ai dit ça, je vous ai rien dit d'une certaine manière, mais en tout cas, on va être très attaché à ce que les acteurs qui sont présents sur le terrain, qui aujourd'hui rendent le service sur les chantiers, aux entreprises, etc., puissent continuer à le faire et à les écouter et à essayer de contracter avec eux des choses qui sont intelligentes. Quand je vous dis ça, je n'ai pas une réponse très précise, c'est plutôt une ligne de conduite. Et pour venir à votre question sur les
modèles, en fait,
financés, voilà. Là aussi, moi, j'incite tout le monde sur ce sujet-là, peut-être à essayer d'être modeste au début et d'essayer de s'adapter aux situations. L'IFCC, pour faire simple, Stéphanie Jacob le dirait mieux que moi, aujourd'hui propose un modèle mixte pour certains flux, les métaux et les gravats sur lesquels ça fonctionne déjà pour différentes raisons, plutôt un modèle financier. C'est exactement l'esprit de ce que je vous disais là. Il y a un truc qui fonctionne, surtout ne le perturbe pas.
Justement, c'est un système de conventionnement entre les éco-organismes et les acteurs du secteur.
Voilà, et puis pour les autres, et puis l'IFCC propose un modèle plutôt organisé pour les autres flux pour lesquels la situation est assez différente. On est plutôt dans des valeurs négatives, etc., etc. Il y a plutôt des filières à mettre en place ou à faire progresser, etc. Moi, j'incite tout le monde, si possible, dans tout ça, surtout ne pas trop se dépêcher de figer des choses qui pourraient nous empêcher de trouver des solutions souples et intelligentes avec les différents acteurs. Et moi, je pense qu'on peut trouver des modèles qui soient des modèles un peu intermédiaires. Et vous savez, la dichotomie entre à ma gauche le financier, à ma droite l'opérationnel, je crois qu'elle est un peu artificielle et qu'il y a des modèles entre guillemets organisationnels qui sont finalement assez proches du financier parce qu'ils laissent une large marge d'initiative aux prestataires. Et je pense qu'il faut qu'on sache, il faut qu'on soit prêt à tester ce genre de choses avec les acteurs sur le terrain. En tout cas, moi, j'y suis tout à fait déterminé.
Stéphanie Jacob, évidemment, vous pouvez qu'approuver ce que vient de dire Hervé Demestre.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est important. Alors, en fait, un des points forts qu'on promeut, c'est la souplesse. C'est que cette REP, elle est énorme. Elle doit être développée sur un temps extrêmement court.
C'est en même temps, c'est d'un côté, on va dire, il faut de la souplesse. Et en même temps, la souplesse ouvre la voie à plein de choses. Et on va se dire, ça peut créer de la complexité, non, derrière?
Je pense pas. Je pense que justement, on voit que un chantier ne ressemble jamais à un autre chantier. Tout est toujours on nous dit tout le temps oui, mais moi c'est pas pareil. Moi j'entends ça toute la journée. Donc je pense que cette souplesse, elle est nécessaire si jamais on veut pouvoir s'adapter aux différentes situations et faire progresser les choses. Si on a des choses qui fonctionnent, comme disait Hervé, effectivement c'est très important de capitaliser dessus en fait pour pouvoir les développer. On va dire que si on peut avoir la plus grande souplesse possible sur cette REP, nous, on la prend. S'il faut rigidifier un petit peu, entre guillemets, les choses, c'est vrai qu'on a ce modèle financier qui fonctionne très bien, enfin, qui pourrait fonctionner très bien sur les inertes et sur les métaux et l'opérationnel sur le reste pour, on va dire, donner de l'énergie et développer les filières.
Et il y a un point aussi sur lequel, on va dire, il y a un petit peu de discussion aussi, c'est comment on crée, on va dire, les différentes catégories aussi d'agréments, ou d'un côté, alors là, ADEME mettait plutôt en avant des catégories de produits, alors que vous avez plutôt parlé de produits par fonction, et non pas de matériaux spécifiques. Ouais. Quoi. Alors vous êtes plutôt sur la nature du matériau.
Oui, absolument. On a beaucoup travaillé sur ces catégories d'agréments, parce que c'est vrai qu'en tant que fabricant, c'est quelque part, c'est un petit peu là-dessus qu'on commence, en disant sur quel produit est-ce que je vais être assujetti à la REP. Donc on a travaillé dessus, on est reparti un petit peu de bases qui existaient, et qui existaient plutôt par fonction. On est reparti aussi de l'étude ADEME, et puis en mettant un petit peu les choses en place en travaillant dessus, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'y arrivait pas. Si on prenait toutes les fonctions, on allait avoir des fabricants qui avaient un produit qui était réparti dans différentes fonctions, mais qui était réparti sur ces fonctions au moment de l'installation. Donc, en fait, en tant que fabricant, on n'a aucun moyen de dire, bon, bah, s'il y a un éco-organisme par catégorie, on n'a aucun moyen en tant que fabricant de dire, bah, je vais mettre 2% là, 7% là, et le reste ici. Donc, on s'est très vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas, qu'en plus, majoritairement, les fabricants fonctionnent par type de matériaux. Quand on a une ligne de fabrication sur du métal, on ne fait pas du plastique ou on ne fait pas du bois. Ou alors on le fait dans une autre usine, mais au moins c'est, enfin, les choses sont bien séparées à ce niveau-là. Et qu'en aval, on se retrouve aussi avec des déchets qui sont triés par matériaux. Voilà, on a une benne d'inerte, une benne de métal, une benne de bois, une benne de plastique, etc. Donc, en fait, on s'est dit, bah, c'est un peu cohérent tout ça. Et l'idée, c'est plutôt d'essayer de faire correspondre l'amont et l'aval. Donc, nous, on a proposé 6 catégories. On voit que dans les réunions de concertation, la DGPR nous propose plutôt des catégories beaucoup plus restreintes, voire une catégorie. À la IMCC, il y a pas de, enfin voilà, on est ouvert. Alors est-ce que c'est une catégorie, est-ce que c'est deux catégories, voilà, il y a des réflexions en cours, mais en tout cas on n'est pas fermé à restreindre le nombre de catégories.
Alors Sylviane Oberlet, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre, même si j'ai bien compris que de toute façon REP ou pas REP, de toute façon l'essentiel pour vous c'était d'y aller.
Oui, ça c'est la position, mais on est tout de même intéressé à ce que ce soit quelque chose qui soit cohérent. En fait, l'approche par matériaux nous satisfait assez parce que, comme l'a dit Madame Jacob, derrière, il y a, on va trier par matériaux, de fait. Et on l'oublie un peu trop souvent, mais la première REP, qui est celle des emballages, en fait, était une REP par matériaux. On a effectivement, on s'est intéressé à une catégorie de produits, mais au sein de cette REP, la séparation est faite par matériaux. Ce qui était d'assez bon sens. Alors après, on a fait d'autres choix. C'était d'autres types de déchets, d'autres types de produits. Ça se justifiait. Mais une approche par matériaux nous convient tout à fait de ce point de vue-là. Alors par rapport à ce que vous disiez, est-ce que la souplesse va complexifier ? Franchement, j'ai assisté à la mise en œuvre d'à peu près toutes les REP. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est exactement l'inverse, surtout au début. Ce qui complexifie beaucoup l'organisation, c'est quand on a un modèle rigide décidé au niveau national et pour pouvoir le plaquer sur une réalité de territoire qui est éminemment variable, on va être amené à rajouter un petit module à droite, à faire un arrangement à gauche et au final, on va se retrouver avec une multitude de cas particuliers parce que justement, on a essayé de mettre en place un cas général qui, comme très souvent, le même costume ne va pas à grand monde et on est obligé de faire des retouches pour tous ceux qui veulent porter le costume.
Alors j'avais une question qui est apparue sous mes yeux et ben, je vais demander en régie à ce qu'on la fasse réapparaître avant que j'enchaîne aussi sur la question globale de l'éco-organisme. Est-ce que l'implantation de nouvelles unités de recyclage de matériaux sur le territoire sera aidée par cette REP ? Est-ce que l'un ou l'autre a une réponse ? Oui, Hervé Demestre.
Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Bah oui, si vous voulez, naturellement, ça rentre dans les attributions d'un éco-organisme d'accompagner des démarches vertueuses. Ça peut être soit par de la recherche et développement, par exemple, aider des initiatives qui visent à développer du recyclage ou de la réutilisation. Il y a des éco-organismes qui le font dans d'autres filières aujourd'hui. L'accompagnement de nouvelles unités d'investissement dans ce domaine, effectivement, un éco-organisme peut et à mon sens doit, là où il y a besoin évidemment, apporter un petit coup de pouce pour aider à la montée en compétences de la filière. Ouais.
Alors il y a une précision sur qu'est-ce qu'un système financier. Alors vous voulez répondre, oui je vous entends Sylviane Oberlé, c'est pas facile comme on se voit pas, vous vouliez commenter, allez-y puis je poserai l'autre question, ouais. Allez-y.
Je voulais juste apporter un petit compliment, un complément.
Non, vous pouvez faire un compliment si vous voulez.
Mais en l'occurrence, c'était plutôt un complément. La première aide qu'un éco-organisme peut faire pour l'implantation d'une usine de recyclage, c'est de lui fournir, de lui amener un flux de matériaux à recycler, à peu près constant dans ses qualités et avec une certitude d'approvisionnement. C'est déjà une première aide en tant que telle.
Alors, il y a une précision.
Oui, vous faites bien de le souligner, merci, on s'en souviendra.
Alors, il y a une précision, on va dire, sur l'aspect financier. Hein. Qu'est-ce qu'un, entre guillemets, système financier pour les filières qui ont déjà une organisation de valorisation?
Alors, ça, je peux peut-être répondre. Ouais. Parce que, en fait, le système financier a été créé quasiment pour les collectivités. La contrainte que connaissent les collectivités, c'est qu'elles n'ont pas le choix, elles doivent accueillir tous les déchets qu'on leur amène. Ce qui veut dire que quand elles ont un déchet difficile à traiter ou rentable ou non rentable, elles le prennent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un choix politique au niveau de l'AMF qui souhaitait que toutes les collectivités puissent rentrer dans le dispositif, ce qui incluait une mutualisation entre toutes les collectivités. Donc, le parallèle d'un système financier, c'est que l'éco-organisme ne peut pas refuser un acteur à partir du moment où il remplit les obligations qui sont les siennes, qui est d'accepter tous les déchets et de les trier correctement. Pour ce faire, on a inventé un système financier qui permettait de préserver l'installation et la structure en place et donc de financer ce qui était déjà fait. Un système opérationnel, ça consiste à ce que l'éco-organisme passe des marchés, ou fasse lui-même, mais c'est extrêmement rare, je ne connais pas qu'ils le font, passe des marchés pour avoir des prestataires qui vont collecter et enlever selon les indications du marché. Mmh. En d'autres termes, dans un cas, dans le financier, l'éco-organisme n'organise pas en tant que tel, mais fournit une forme de cahier des charges. Et dans l'opérationnel, l'éco-organisme organise lui-même.
Voilà, donc c'est trois modèles. On a parlé de modèle financier, modèle opérationnel, et puis pourquoi pas le modèle mixte dont on parlait. C'est important de le préciser. Alors, il nous reste à peu près 5 minutes. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, mais comme quoi c'est un sujet vraiment qui suscite beaucoup de débats. J'avais quand même une question, parce que là, vous voulez mettre en place un nouvel éco-organisme, on va dire. On en a parlé, il y en a d'autres déjà. Est-ce que c'est pas rajouter une couche au millefeuille, Hervé Demestre?
C'est une bonne question. Je peux vous dire, quand on s'est posé la question, et à l'époque, je me suis posé la question avec un certain nombre de décideurs de Saint-Gobain de susciter cette initiative collective, etc., on a commencé par regarder le paysage des éco-organismes en place et on s'est demandé s'il y avait a priori quelque chose qui permettait de répondre aux enjeux de la REP des PMCB. Et on est arrivé à la conclusion que non, qu'il y avait vraiment besoin de créer quelque chose.
D'ailleurs, une question, est-ce que cette REP, hein, j'en profite, couvrira toutes les typologies de déchets du bâtiment ou y aura-t-il des restrictions par rapport à certains d'entre eux, hein. C'est une question qui vient d'arriver, hein, de la part du public.
Ça couvre tout.
Hein, c'est bien, vos autres cas, il n'y a pas de restriction.
La REP couvre tous les produits et matériaux de la construction.
La REP couvre l'ensemble et l'initiative dont je vous parle aujourd'hui est une initiative qui vise à répondre à toutes les familles de matériaux, à couvrir tout l'ensemble.
Donc je vous ai interrompu parce que j'ai pris la question en même temps. Voilà. Donc revenons à l'histoire de l'éco-organisme qui vient en plus des autres. Vous avez 3 minutes. Même pas vous. Je laisse la parole aux autres.
D'accord. Bon, simplement pour vous dire que notre projet est de répondre à l'ensemble du scope et il nous semble que ça apporte de la valeur ajoutée parce que c'est une façon de simplifier les choses pour les partenaires de l'éco-organisme ou des éco-organismes, que ce soit les entreprises, les maîtres d'ouvrage ou les collectivités locales. Si vous avez moins de partenaires avec qui travailler, c'est plus facile. Donc voilà, il nous semble que de cette manière-là, on va réduire la complexité pour les partenaires de l'éco-organisme.
Et qui est peut-être aussi un éco-organisme coordinateur dans l'histoire ?
Alors, l'éco-organisme coordinateur, c'est quelque chose qui est prévu lorsqu'il y a précisément plusieurs éco-organismes. Mmh. Dans ce cas-là, il y a nécessité d'un éco-organisme coordinateur pour organiser tout ça. Mais vous voyez tout de suite, on induit une petite complexité en plus.
Exactement. Sylviane Oberlé, un commentaire ?
Alors, c'est vrai que ça semble, encore une fois, la complexité n'est pas forcément là où elle semble être. C'est vrai que ça semble complexe, que les collectivités savent qu'elles... La multiplicité des éco-organismes, la plupart d'entre elles travaillent avec entre 10 et 15 éco-organismes, ce qui parfois est assez compliqué. Toutefois, la REP est une émanation des metteurs en marché et l'éco-organisme est une émanation des metteurs en marché. Il est naturel qu'il y ait des affinités et des contraintes qui sont partagées au sein d'un même métier. Donc, une REP pour le bâtiment ne nous paraît absolument pas choquant. Ce que l'on souhaite, c'est qu'en dehors d'un organisme coordonnateur qui est une obligation de type légal et qui permet de répartir les parts de marché en fonction des déchets collectés, les collectivités souhaitent que les éco-organismes travaillent ensemble. Ils n'ont pas besoin d'être le même à condition qu'ils collaborent, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils se parlent déjà, parce que parfois ça commence par « il faudrait peut-être se parler ». Notamment pour les collectivités, ces REP vont partager un même équipement qui est les déchetteries. Il faudrait tout de même qu'on organise un petit peu pour éviter que ce soit le bazar.
Oui, il faut le préciser. Alors Stéphanie, Jacob, quelques mots en conclusion. Donc je disais, là, les réunions de concertation là, se terminent. Vous devez remettre vos positions finales le 18 mai. Bon, apparemment, le dialogue a l'air quand même assez ouvert avec l'État et ça a l'air de bien se présenter, on va dire, pour quand même, je le rappelle, horizon 1er janvier 2022.
Oui, bien se présenter, je ne sais pas, on verra. D'accord, attendre de voir les textes. Hein. Ouais. Mais en tout cas, oui, le dialogue est ouvert. On peut travailler pour faire des propositions. On échange avec les différents acteurs. C'est un sujet qui est vraiment compliqué. D'abord parce qu'il faut conserver, comme on disait, ce qui est mis en place. Mmh. Il faut faire monter aussi, on a vraiment une volonté côté IMCC de faire monter cette REP pour le recyclage. On veut vraiment développer ce recyclage. C'est nécessaire. Et pour ça, comme le disait Hervé tout à l'heure, c'est important qu'on puisse trier. Alors, à la source sur le chantier, c'est une possibilité. Il y a d'autres possibilités. Pour nous, la reprise gratuite, c'est important qu'elle commence plutôt au niveau du point de collecte, qu'on mette tous les apporteurs de déchets au même niveau et qu'on ait des flux qui soient cohérents par rapport aux filières de recyclage qui existent. On a beaucoup d'entreprises qui trient déjà sur un certain nombre de filières et on veut vraiment que ces filières puissent être développées en continuant. Alors on a conscience qu'il y a des chantiers qui sont très contraints, sur lesquels il n'y a pas de place ou il n'y a pas de temps. Donc on ne va pas obliger tout le monde à faire un tri très poussé, très fin, ce qui n'aurait pas de sens. Mais par contre, il y a des déchets. Si jamais ils ne sont pas triés en amont, on les perdra et les filières ne pourront pas fonctionner. Et du coup, derrière, on ne pourra pas remplir d'objectifs d'intégration de recyclés dans les produits parce qu'on aura perdu plus au démarrage.
En tout cas, ça, 45 minutes, c'était presque trop court pour parler quand même d'un sujet où il y a beaucoup de choses à expliquer et beaucoup de questions sont arrivées, donc c'est vraiment une preuve. Je sais que Hervé Demez voulait aussi parler de la transparence sur l'éco-participation dont je cite parce que c'est un enjeu majeur. On aurait pu parler aussi d'éco-conception parce que c'est bien de trier, de recycler, mais si au départ, évidemment, les objets, les produits sont mieux conçus, c'est beaucoup plus facile. Alors, il y a beaucoup de choses derrière tout
sur
ça.
Sur la durée de vie longue, alors l'éco-conception, on l'a fait déjà, ça se verra dans 30 ans.
Ça se verra dans 30 ans, exactement. Bah, merci en tout cas à vous, Hervé Demestre, président du comité stratégique de filière IPC, Industrie pour la construction, Sylviane Auberlé, chargée de mission prévention des pollutions à l'Association des maires de France, et Stéphanie Jacob, présidente du groupe de travail économie circulaire de l'AIMCC, Association française des industries des produits de construction. On va marquer une courte pause et puis on passera à la séquence consacrée à la rénovation énergétique dans les territoires. Et comme je le disais, ce mois-ci, à l'honneur, l'Occitanie.
Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le grand témoin, un entretien à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.